Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde dont le titre est « La beatlit au féminin, ça décoiffe ». Alors, je vais peut-être prendre sur moi, et si les imaginales sont très fâchées après, on va garder ça entre nous. « La beatlit au féminin, ça décoiffe ». Moi, le titre, c'est juste pas possible, quoi. Hein, on est bien d'accord. Je crois pas qu'autour de cette table, il y ait une seule auteure. D'abord, il y a que des auteurs féminines. Ok, passons. Pour la mixité, bon, tant pis. Mais l'idée de la beatlit, je pense que si on évacue tout de suite ce terme du débat, ça va faciliter le travail à Jocelyne, qui est notre traductrice, puisque la beatlit ne veut rien dire pour les anglophones. Donc faisons comme si ça ne voulait rien dire pour nous non plus. Et est-ce qu'on peut essayer de parler de fantaisie urbaine, tout simplement, et que chacun se situe dans ce courant-là? Je sais bien que tout le monde aime mettre des petites étiquettes sur tout, mais essayons de nous détacher des étiquettes pour parler littérature, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut justement dire que fantaisie urbaine au féminin, ça vous convient? Déjà, au féminin, est-ce que pour vous, il y a une écriture particulière qui est une écriture féminine? Est-ce que vous vous considérez comme ayant une écriture différente parce que vous êtes une femme? Oui, question. Oui, tous mes débuts.
Étiquettes, mais alors la première question, elle envoie.
Ouais, c'est ça. Toujours. J'ai des questions compliquées tout de suite. Comme ça, après, ça devient plus simple et on se détend. Qui est-ce qui veut commencer par cette Chloé?
Bonjour. Gosh, that is a complicated question.
Yes, I know.
You know, I didn't set out to write a novel that's about necessarily women or feminism per se, but I think now that I've stepped back from it a little bit, I've made a heroine who happens to be a woman, but also is invested with a lot of responsibility, a lot of weight is placed on her shoulders, and she really tries her best to meet and exceed that responsibility that she's given. So if the idea of feminism is that we expect as much from women as we do and allow them to the power to undertake that responsibility, then I think it is kind of feminist literature.
Bon, c'est une question très compliquée, hein, mais je pense que c'est dans notre littérature, dans ma littérature, je veux dire que moi, j'écris, ma protagoniste Merritt est une femme qui a pris des responsabilités, qui prend ses responsabilités et qui va même très souvent au-delà. Elle fait son possible, mais elle a beaucoup à faire et elle a ce fardeau sur les épaules. Donc si on dit que la littérature féministe est une littérature où l'on voit des protagonistes qui assument beaucoup de responsabilités et qui font un travail, eh bien oui, voilà, c'est peut-être une littérature féministe.
Qui d'autre veut s'exprimer sur ce sujet? Marika.
Alors, la question tout à la base, c'est est-ce qu'on a s'il y a une différence d'écriture féminine ou masculine? Donc, n'étant pas un homme, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Enfin, n'ayant pas également été un homme, on va dire plutôt. Mais je sais que, par exemple, avant, j'écrivais tout le temps des romans à la troisième personne, mais quand j'ai eu Maëve, elle avait tellement de choses à dire qu'il était clair que c'est elle qui allait raconter l'histoire. Donc c'était la première fois que j'écrivais en jeu, un jeu qui n'était pas moi, donc c'était assez bizarre. Et elle avait des revendications pour sa vie, donc qui étaient beaucoup plus libérées que des choses que j'ai pu lire moi-même avant, donc que ce soit au niveau du regard que normalement les femmes doivent être, on va pas dire bien élevées, mais elles doivent quand même rentrer. Il y a deux catégories, quoi. Soit on est un énorme cliché, mais soit on est une salope, soit on est une sainte. Et du coup, en fait, non, on peut être les deux, on peut être aucune des deux, on peut être les deux à la fois, on peut être un savant dosage de l'un comme de l'autre. Et elle s'en fichait. En ça, c'est vrai que l'écrire, elle, était assez intéressant parce qu'elle est comme elle est, mais elle se fiche de la manière dont on l'aperçoit.
Roxane, votre roman n'est paru qu'en édition numérique et en poche. Et est-ce que vous avez, pour ce premier roman ou pour un roman qui rentre dans ce genre-là, est-ce que vous avez choisi une écriture particulière ou est-ce que vous écrivez comme pour le reste?
Celui qui ne fonctionne pas. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je suis comme Marika, j'ai jamais été un homme. Mais ce que je vois au travers de mes différents romans, c'est que là, en l'occurrence, Lou, c'est une femme, mais j'ai aussi écrit des romans où le héros était un homme. Et c'est vrai que je ne sens pas vraiment de différence entre quand j'écris, quand, entre guillemets, je suis un homme, et quand je suis une femme. Donc je pense que c'est surtout une façon d'écrire qui serait féminine, mais qui vient beaucoup de notre éducation. Du fait que même si on essaye de donner la même éducation à une fille et à un garçon, il y a toujours des différences. Et finalement, si la littérature est dite féminine, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans notre éducation et dans notre ressenti qui donne quelque chose comme ça.
Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que par exemple, Robin Hobb, dans un premier temps, beaucoup de lecteurs ont pensé que c'était un homme. Et moi, quand j'entends dire « mais Robin Hobb, il y a une écriture un peu féminine, elle parle des sentiments, elle parle du ressenti de son personnage », je ne comprends absolument pas de quoi on parle. Mais peut-être qu'il y a des lecteurs pour qui c'est important de savoir que c'est une femme qui écrit. Est-ce que vous, quand vous pensez à votre lecteur, vous vous dites « c'est bien qu'il sache que moi j'écris en tant que femme ». Ok, mes questions sont trop compliquées, on va faire plus
en
simple.
En fait, est-ce que la base de la question, c'était est-ce que vous parlez de sentiments et les hommes pas? C'était ça le fond de ta question?
Non, moi je me pose parce la question, quand j'entends les gens... Non, mais quand j'entends la bitlite au féminin, pour moi, il n'y a pas d'écriture féminine, il n'y a pas d'écriture masculine, il y a des bons auteurs et il y a des mauvais auteurs. Point. Alors, est-ce que c'est important de se positionner en tant que lecteur féminin? Moi, je pense souvent à la phrase de Joss Whedon, à qui on a demandé « mais pourquoi est-ce que vous continuez à écrire des personnages féminins aussi forts ?» Et sa réponse était « parce que vous continuez à me poser la question ». Et effectivement, ça me semble important. Alors, voilà, pourquoi est-ce que vous choisissez des héroïnes fortes? Allons-y.
Je vais pas faire la même réponse que Joss Whedon quand même, mais oui, je lis énormément depuis que je suis toute petite. J'ai lu beaucoup de livres de fantastique, SF, des grands classiques, et c'est toujours des hommes. Enfin, c'était toujours des hommes dans la plupart des cas. Et même moi, quand j'ai commencé, je me souviens, mes premiers personnages, j'ai commencé avec des nouvelles, étaient plutôt des hommes. Et j'ai eu la démarche de me poser la question, finalement, pourquoi en tant que femme, j'étais amenée à écrire des hommes lorsque je n'y réfléchissais pas. Et du coup, j'ai eu un travail, en fait, de voir quel schéma m'avait été inculqué par mes propres lectures, par l'image de l'imaginaire d'une certaine époque. Et c'est pour ça que j'écris maintenant principalement avec des héroïnes, des héroïnes fortes, qui sont d'abord là pour trouver leur place dans ce monde, qui sont d'abord là pour trouver, pour se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent exister, pour trouver leur voix. Mes deux sont mortes, en fait, donc en fait, elles n'ont pas de travail, mais, mais elles cherchent quand même leur voix. Après, je reviens, j'ai quelques projets de héros masculins, et je me rends compte, en fait, que je les traite de façon... on va dire moins hyper costaud, parce qu'à nouveau on voit beaucoup des héros très costauds qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui, enfin, à l'époque où je lisais énormément de fantasy, donc il y a quoi 15-20 ans, ouais, et donc je sais pas si c'est vraiment une écriture féminine, mais j'ai à cœur, en fait, de montrer ce qui n'est pas, enfin, comment dire, de casser les schémas. Parce que j'ai vu un jour que j'étais victime de schémas que me donnait la société de loisirs, que ce soit la télé, les séries, les films, les livres, les jeux de rôle, le GN. Et voilà. Où on voit beaucoup de minettes avec vraiment juste le soutien-gorge et le slip armure, et ça, chacun sait que ça protège rien, en fait. C'est totalement aberrant. Ah bon ? Ouais, non, mais... Et donc, dans ce livre-là, j'ai deux romans. L'autre, c'est L'Aube de la guerrière. Ma guerrière est une guerrière. Elle se protège vraiment de haut en bas. Et c'est un des deux garçons qui utilise les produits Lush. Parce qu'il prend soin de son corps, parce qu'il le vaut bien. Mais voilà, mon objectif était, je sais pas forcément... Alors, ça peut être féministe dans le sens où féministe est de casser les schémas qui mettent les femmes dans un certain rôle, souvent axé sur les sentiments et on peut les obliger à faire le choix entre une vie professionnelle et une vie maritale, ou en tout cas en couple réussi. Voilà, mon objectif est de casser ce schéma-là. Une femme fait ce qu'elle veut de sa vie. S'il y a des sentiments dedans, c'est très bien. C'est cool pour elle, elle est épanouie. S'il n'y en a pas, ben, elle réussit avec autre chose.
Chloé, est-ce que du coup, le choix de choisir le vampire, c'est une solution pour se mettre à la fois dans un environnement moderne, dans votre cas, et aussi dans un environnement où la violence est quelque chose d'inhérente à ce qui se passe? Est-ce que le vampire, avec femme, sans femme, c'est automatiquement quelque chose qui se passe dans la violence?
That is a very good question.
Merci.
These are good theme questions. You know, I think part of me as a masochist wanted, or a sadist, wanted to throw Merritt, who's the heroine of these books, into a situation she hadn't experienced before so that I could hopefully help her learn how to find her way out of it. Certainly that involves violence, just because the vampire, they tend to get into a lot of battles, and there's, you know, she's learned to fight with a sword and kind of be a warrior. But I think I really wanted, it was important for me to give her a chance to be more than she thought she could be. She was a graduate student in literature when she's made a vampire, becomes a vampire warrior who learns to fight. And I think she would have been content being in a library for the rest of her life and never being out in the world. So I guess by giving her violence, I've given her a chance to kind of step into the world and participate in it.
C'est une excellente question. Je trouve que ce sont de très bonnes questions. Je pense que je suis peut-être un petit peu sadique, hein, en partie, et je voulais plonger mon héroïne Merritt dans des situations compliquées, et je me disais que je pourrais ainsi l'aider à sortir de ces situations. Et il faut savoir que en moment où elle est devenue vampire, elle était doctorante en littérature, donc Merritt, elle s'imaginait très bien passer sa vie dans une bibliothèque et ne rien faire d'autre que de travailler dans une bibliothèque et de travailler sur ses bouquins. Et là, en devenant vampire, elle apprend à se battre à l'épée, elle devient excellente au combat, donc elle devient une très bonne guerrière, et elle doit confronter des situations qu'elle n'avait jamais envisagé de confronter. Donc elle est vraiment dans un milieu très différent de ce qu'elle avait imaginé au départ, qui était la bibliothèque.
Alice, qu'est-ce qu'on peut dire de l'héroïne de Lacrimosa? Est-ce que c'est une femme comme les autres, ou elle sort un peu de l'ordinaire?
Bah, elle sort de l'ordinaire, parce qu'elle a, elle a un pouvoir qui est particulier et qui lui permet de posséder le corps des gens. Elle sort de l'ordinaire.
Tellement pratique.
Tellement pratique. Pas tous les jours. Mais du coup, elle pourrait répondre à cette question de qu'est-ce que ça fait d'écrire en tant que mec. Mais contrairement à nous toutes qui n'avons jamais été des hommes, elle saurait. Mais elle a une vie particulière parce qu'elle affronte des vampires. Ça se passe pas très bien pour elle, hein, clairement. Mais quelle était ta question?
Pour rebondir sur ce qu'a dit Chloé, pourquoi choisir de mettre votre héroïne dans ces situations aussi désagréables?
Déjà parce que
si elle faisait la popote tous les jours, ça serait moins intéressant.
Exactement. Je me vois mal tenir 300 pages sur « Elle a là acheté une baguette ». Et en dehors de ça, je pense que c'est une manière métaphorique de montrer la force de caractère et la puissance de ces filles qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur, qui sont courageuses. C'est compliqué de les montrer courageuses dans notre vie quotidienne. Enfin, je veux dire, je suis désolée, ça va ressembler à un discours féministe terrible. Mais en tant que femme, tous les jours, on affronte des défis insurmontables. Sauf que, quand vous le racontez dans un bouquin, c'est pas passionnant. C'est aujourd'hui, j'ai réussi à faire la vaisselle et je ne me suis pas cassé un ongle. Oh mon Dieu. Donc voilà, on ne va pas faire 300 pages là-dessus non plus, c'est comme la baguette. Mais c'est une métaphore, donc, de les plonger dans le surnaturel pour pouvoir révéler leur force de caractère et dire, voilà les filles, ce matin, vous vous êtes levées, vous avez affronté une journée d'enfer, ce soir, vous êtes toujours en vie, hurrah,
bravo.
Et vive nous. Voilà.
Et surtout que toi, tu la maltraites quand même pas mal, parce qu'avant de plonger dans le surnaturel, elle a quand même été élevée par des nonnes.
Elle a été élevée par des nonnes. Elle a... Non, mais elle traîne un sacré paquet de casseroles. Mais parce que je suis une sacrée sadique.
Ah. Bonjour tout le monde.
Marika, et pour toi, est-ce qu'il y a aussi cette volonté de plonger, de parler baguette, évidemment, de fromage suisse, de choses que tu connais bien. Mais sinon, est-ce qu'il y a la volonté de plonger cette jeune femme qui a un sale caractère, on peut le dire, à la base? Dans, face à des situations qui peut-être peuvent l'amener à travailler ce caractère, à le mettre en avant.
Moi, j'avais, on va dire, avec le recul, hein, parce que sur le moment, c'est vraiment pas le genre de choses auxquelles on pense forcément, on se dit ça pourrait être chouette, mais on pense pas vraiment profondément. Mais j'avais surtout deux objectifs pour elle, c'était lui en faire baver et lui faire faire justement...
Sadique aussi, donc.
Oui, c'est... je pense qu'on est tous un peu sadiques, sinon on n'écrirait pas, on joue un peu à Dieu en étant des auteurs, donc et voilà. Oui, c'est...
Conclusion de ce panel, Dieu est sadique.
La bitlite au féminin, conclusion, tout le monde est sadique. Qu'est-ce que je disais d'un peu plus intelligent juste avant ? Oui, oui, oui. J'avais mon envie pour elle, c'était vraiment de partir avec un personnage qui à la base est atroce. Pour ceux qui ont pu la rencontrer déjà au début, c'est vraiment pas le genre de personne qu'on a envie d'avoir pour amie. C'est vraiment, elle garde les gens à distance, même vu que ça raconte à la première personne, on sait pas grand chose non plus sur les gens qui l'entourent parce que ça l'intéresse pas. Vraiment, au début, ça ne l'intéresse pas. Et je voulais que plus elle bascule dans quelque chose qui pour nous est surnaturel, donc pour elle aussi ça l'est logiquement, je voulais que plus elle plonge justement dans le surnaturel, plus elle-même devienne humaine. Donc j'avais envie qu'à la fin de l'histoire, elle soit plus... C'est pas plus douce, mais elle soit plus...
Vivable.
Non, elle soit plus... plus sensible, voilà. Parce que normalement, on a des histoires où les héros commencent et ils sont justement personnes standards de la vie de tous les jours, vous et moi, monsieur et madame, tout le monde. Et on leur donne des épreuves et ça les endurcit. Et à la fin, c'est des gros durs. Ils ont fini leur journée, ils ont leur voyage... C'est bien, hein, voilà leur voyage initiatique. Et ils sont plus forts qu'à la base. Et la mienne, je la voulais déjà trop forte au départ et qui devait justement s'humaniser. Et bien. Je l'ai fait en faisant des trucs atroces.
Roxane, pour vous, l'héroïne, on la met dans une situation difficile pour en faire quoi ?
Alors moi, je ne suis pas du tout sadique à la base.
Ah, voilà.
C'est pour ça que je suis de ce côté-là. Je fais mon club toute seule.
Et, remarquez, si on est une bande de sadiques, c'est mieux qu'on ait une maso avec nous. Sinon, sinon c'est sans intérêt.
Moi, que mon personnage souffre, je souffre avec elle. Donc,
oui, maso, c'est bien ça.
Il faut vraiment qu'il y ait un gros truc pour que je décide de la faire souffrir. Parce que finalement, mon personnage a beau être capable de se transformer en animal... Elle n'en reste pas moins persuadée elle-même qu'elle est complètement normale, qu'elle a sa place dans le monde, elle a des amis, elle a une famille, elle a une vie. Pardon. Et elle est heureuse d'être là. Et finalement, bon, bah, les ennuis finissent par la trouver parce que finalement, bah, la baguette de pain, hein. Même pour les personnages normaux, ça finit par être pénible. Et bon, quand les ennuis la trouvent, elle sait se défendre. Et c'était aussi ma manière à moi de montrer qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaire à la base. On n'a pas besoin d'être, détesté par le monde entier ou d'avoir un passif extraordinaire.
Juste de savoir se changer
vivre,
en animal.
Voilà, juste de savoir.
Bon.
Mais oui.
Un détail.
Il y a quelques humains aussi dans cette histoire, parce que c'est vrai qu'il y a des humains aussi dans mon monde. Et il leur arrive aussi des choses. Forcément, ils finissent par être impliqués. Mais... mon idée de départ, c'était surtout qu'un personnage normal, il peut aussi lui arriver des choses complètement aberrantes et que le personnage se réalise finalement, se renforce à travers ces épreuves.
Ce que je trouve intéressant dans ce panel et dans la façon de présenter le sujet, c'est qu'on ne se pose jamais la question sur tous les romans qu'on a tous lus, enfin je pense, j'espère. Je vous le souhaite. On a tous lu beaucoup de romans de fantasy et on se pose jamais la question quand le personnage principal est un homme de dire oh là là le pauvre il va affronter beaucoup d'épreuves, ça va être terrible et tout. La question elle se pose visiblement que pour les personnages féminins. Alors que non, moi je ne me la pose pas mais
est-ce qu'il y a un panel sur la fantasy au masculin
c'est
cette
ça,
année ?
C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on propose le héros mâle est-il s'est-il cuisiné ? Par exemple, hein, parce que quand ils partent tous en camp ensemble dans la campagne, une compagnie, oui. Qui est-ce qui fait la cuisine ? Bon, les hobbits, on le sait. Mais justement, est-ce que Est-ce que votre façon d'aborder le féminin normal, c'est-à-dire un féminin un peu surnaturel pour chacune d'entre vous, mais un féminin qui a autant sa place que le masculin, c'est pas une façon de critiquer un peu ce qu'on vit au quotidien, ce que tu évoquais sur le fait que oui, elle mène une journée et puis elle va se coucher et comme tout le monde, comme le héros se couche dans son camp à côté du feu, elle se couche dans sa ville ou dans son lit. Est-ce que vous avez envie de montrer que les héroïnes ont les mêmes capacités que les héros?
Moi, j'ai surtout, en entendant ta question, la chose que j'ai pensé, que peut-être là où on est vraiment féminine, où on est réaliste, c'est qu'il me semble que dans tous les livres que je lis, malgré l'aspect surnaturel, ça reste justement l'aspect féminin, l'aspect femme, ça reste la vie de tous les jours. Il n'y a rien de surnaturel ou de plus fort dans la vie. C'est vraiment, on est une femme qu'on doit gérer, je ne sais pas, une horde de loups-garous ou des nonnes, voilà, que quelle que soit la créature surnaturelle, on reste avec nos problèmes de femme. Donc est-ce que ça fait, est-ce qu'on essaie de s'affirmer du coup vis-à-vis de... Non, on essaie juste d'être normal. C'est mon avis.
Vanessa, vous avez aussi des personnages normaux?
Ben, je le pensais, puis en entendant Marika, finalement, je me dis que non. Parce que, ben, comme j'ai dit, mes deux héroïnes sont mortes. Une, c'est un ange, l'autre, c'est un vampire. Et leur vie étant totalement chamboulée, elles ont plus de quotidien. Ce sont des femmes, hein, on peut pas le nier. Hein, mais j'avoue que je ne pense pas à elles en termes de femmes, justement. Elles vont pas se préoccuper, par exemple, des vêtements, elles vont pas se préoccuper de leurs cheveux. Là, j'ai lu une romance dernièrement où le héros s'extasiait comme quoi, même dans des conditions hyper difficiles, alors qu'elle est en train de traquer un monstre qui, pour sauver sa petite sœur et qu'elle a fait 7 jours de randonnée dans la montagne horrible, l'héroïne, le matin, se coiffe. Et le héros s'extasiait dessus. Enfin, je veux bien qu'elle se coiffe, ça me dérange pas, hein. Mais mes héroïnes, non, le premier truc qu'elle fait, elle fait un feu de camp pour manger et partir le plus vite possible. Elle fait fondre un peu de neige. Enfin, je sais pas si c'est l'expérience GN, mais j'avoue que j'ai une approche assez pragmatique de certaines choses où le matin, le premier truc qu'on fait, c'est, on n'avait pas l'eau courante, on allait au point d'eau du GN à 400 mètres chercher les bidons d'eau parce qu'après il faisait trop chaud. Et ça, qu'on soit une femme ou un homme. Les hommes, physiquement, sont quand même plus musclés, donc c'est mieux. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, mes héroïnes sont pas particulièrement peut-être un peu Djabila, parce que c'est vrai qu'elle se préoccupe un petit peu de l'apparence qu'elle a, parce qu'elle a intégré que l'apparence donne un pouvoir social. Donc elle s'en préoccupe. Mais non, mais tu disais qu'elles avaient des préoccupations.
Je parlais pas du tout de d'apparence, dans le sens, c'est pas parce que. Enfin, ce que j'essayais de dire, c'était pas que, par exemple, parce qu'il faut qu'elle aille chasser des vampires, elle va quand même prendre le temps de se maquiller. C'est que du genre, si jamais tu es confrontée à quelque chose, quel que ce soit, tu vas réagir comme tu réagirais si tu devais aller choisir ta baguette. Tu vas pas... Est-ce qu'il faut que je recommence?
Oui.
Mais alors, c'est pas... Ouais.
Vas-y. Mais c'est pas... Juste un exemple, par exemple. Métro Toulousain, si ça faisait un mois que j'étais là.
Ça te frappe. Pareil, ça te fera mal pareil. Enfin, moi, c'est mon exemple Buffy. Tu peux aller chasser des vampires la nuit. Tu te prends un râteau la journée au lycée, bah, ça te fait mal pareil. Quoi. Alors qu'on peut dire, bah, c'est pas spécialement grave. Quoi. Tu continues à sauver le monde. Bah, non, ça te fait mal au cœur.
Ah, d'accord. Normal dans ce sens-là. Normal comme quoi, en fait, alors pas particulièrement des femmes, mais n'importe quel être humain reste un être humain finalement.
Et que vu que nous, on est des femmes, on traite nos héroïnes comme des gens normaux.
Oui, mais un mec qui se prend un râteau, ça peut lui faire aussi mal, quoi.
Oui, c'est mais on a déjà déterminé qu'on avait encore
mais
jamais
il en parle pas. Il en parle pas. À part à ses potes, et encore, il en parle pas, Vanessa. Pardon, messieurs. Bon, et Chloé, est-ce que vous aussi, vous avez une vision un peu en métaphore par rapport au personnage du vampire? Est-ce que c'est une vision de la société ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce que c'est juste divertissant? Je sais, les questions compliquées.
Another
recommence.
Good question. These are tricky. They're making me think about things I wrote, and that's hard.
Moi aussi, je suis sadique. Il n'y a pas de raison. Hein. J'écris pas, mais...
That works. You know, to be honest, with every book, my goal is to turn in a good book that's entertaining on time. well, on time, that meets my deadline. I have one due in a couple of months, and I really, as soon as this panel's over and I've signed some books, I'm going to go write a novel. So in the short term, I'm thinking about how can I write the most entertaining story in the time allotted that I have to write an entertaining story. But I think part of the writing, I don't know that I consciously put in a lot of metaphors, but especially since I write in the first person, as a lot of urban fantasy is, I'm certainly thinking about, is what I'm writing going to be relatable to the primarily female audience that's reading it? So, you know, whether you're thinking about makeup or not makeup or hiking, there's any number of types of women who want to do any number of types of things. And I probably write some about my own interests, some about merit. But not, I don't think too much about metaphor.
Je ne pense pas trop à cette question. Enfin, c'est une excellente question encore une fois et ça m'oblige à réfléchir à ce que j'écris. Donc je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'écrire des bouquins qui vont me plaire, qui, je pense beaucoup à mes lectrices, donc mon lectorat est en majorité féminin. J'ai des délais à respecter, donc dès qu'on aura terminé ce panel, j'ai un roman à terminer, moi, pour respecter mes délais. Donc c'est une écriture qui est sans doute un peu métaphorique, en bit.ly, bien sûr. Bien sûr que je mets de mes propres intérêts dans le personnage de Mérite, c'est évident. Mais pour ce qui est de l'approche féminine, du maquillage, de la randonnée, de ce genre de sujet, je pense que je ne pense pas trop à ça. Mon but premier, c'est vraiment d'essayer d'écrire un bon livre.
Un sujet qu'on n'a pas abordé, je ne sais pas si c'est le cas pour vous toutes. Moi, une des choses qui me plaît le plus dans la fantaisie urbaine, c'est sans doute la notion de l'humour. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie... On décrit des choses très surnaturelles, assez peu quotidiennes, et on le fait avec un peu de dérision, un peu de recul. Est-ce que vous mettez ça au premier plan dans votre façon de percevoir ou d'écrire, ou est-ce que c'est important de divertir aussi de cette façon-là ? En faisant rire, parce que vous me faites rire, Marika Gallman.
Oui, alors j'aime bien le tome 1 a été beaucoup de clichés, parce que j'aime bien rire des clichés, utiliser les clichés, et je me suis un peu retenue dans le tome 1 d'y aller avec mon humour un peu, mon humour Gallman, on va dire, et je me lâche beaucoup plus dans le deuxième. J'aime bien l'absurde, j'aime bien jouer avec les choses attendues pour justement mettre quelque chose qu'on n'attend pas. Et mettre des blagues pourries dès que j'ai l'occasion.
Ça détend. Alice, vous faites des blagues pourries aussi ou pas?
Oh oui. Ma passion dans la vie, c'est pourrie. De faire rire les gens. Et du coup, plus je peux sortir de blagues pourries à la minute, et plus je suis contente. Donc voilà. Merci de rire. Je te vois, Suzy. Je te vois rire. C'est bien. Merci. Et c'est bien d'avoir des gens bon public, parce que du coup, la blague pourrie peut très vite tomber à l'eau, mais...
Voilà. Faut s'habituer à prendre un vent, un râteau, tout ça.
Voilà, voilà.
Raconte-nous une blague.
Mais alors écoute, justement...
Non. Je m'interpose en tant que... Bon, Vanessa, est-ce que l'humour, ça fait partie aussi de votre façon d'écrire ?
Après, ça va dépendre du personnage principal. Par exemple, 5 pas sous terre est vraiment très très sombre. Donc, je mets l'humour que je peux dedans, plutôt de l'humour grinçant. Par contre, l'aube de la guerrière, c'est vraiment un gros défouloir. L'héroïne fait exploser tous les codes. De toute façon, elle a plus rien à perdre. Elle est morte. Personne veut d'elle. Ni le paradis, ni l'enfer. Elle sait pas ce qu'elle va faire. Elle s'en donne à cœur joie. Elle envoie péter tout le monde. Et elle a raison, quoi. Et il y a un démon qui la supporte pas, qui est obligé de taper sa compagnie, et il l'envoie péter aussi. Et en général, ça donne de bonnes scènes à tous les deux, qui entre un ancien ange, un ange fugueur, et un démon, un incube. Donc des blagues un peu en dessous de la ceinture, on va dire, comme le reste. Et ça donne des bonnes scènes.
Chloé, je crois qu'on peut dire que vous aussi, vous pratiquez l'humour.
I love humor. I love to laugh. I love wittiness and people who are witty. So I built a heroine who has that same love so that when I write, I can write, I guess, all of the things that I love as well. This particular group of vampires, they're very smart, they're very hardworking, but they get thrown into, I throw them sadistically, into bad situations, and they use sarcasm very often to deal as a defense mechanism, but also to deal with these things that trouble them. Because ultimately, this is escapist fantasy. People read escapist fantasy to escape from their own drama, and vampires use sarcasm to escape, I think, from their own drama.
Oui, l'humour est également quelque chose de très important pour moi dans mes romans, mais également j'adore faire rire. Et je les mets dans des situations, je dois être sadique, je mets mes personnages dans des situations très compliquées. Et souvent, pour eux, le sarcasme est une façon de s'en sortir. Donc moi, j'écris de la littérature d'évasion, mais mes personnages utilisent le sarcasme pour se sortir de certaines situations très délicates. Personnellement, j'apprécie énormément les jeux de mots, l'humour spirituel. Et donc, je donne ça aussi à mes personnages.
Bah, moi aussi, j'aime bien rigoler.
Bon. Alors, des sadiques, une maso, on aime bien rigoler, je crois que ça va être sympa.
Et d'ailleurs, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on lit mon livre, on me dit « Ah, je me suis marrée tout du long ». Et là, je suis vraiment heureuse, je me dis « Ah, j'ai réussi ! J'ai mis du soleil dans la vie de quelqu'un, il met du soleil dans la mienne quand il me dit qu'il a rigolé ». Et ce que j'adore, c'est les situations complètement décalées. Donc ma nénette, c'est une panthère, et avec ses yeux de panthère, elle voit le monde, et elle dit « Mais ils sont fous, les mecs, ils roulent sur la jante ». Et c'est pas complètement faux, parfois, hein. Parce que c'est vrai qu'on fait des choses un petit peu bizarres. Et quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde, on se dit « Ah bah oui, c'est vrai que c'est quand même bizarre, notre façon de faire ». Mais ce sont des choses dont on ne se rend pas compte tant que quelqu'un ne nous le dit pas. Et finalement, donc, c'est plein de situations absurdes, de personnages qui sont décalés, qui sont à côté de la réalité. Et puis quand ils regardent la réalité, bah, ils rigolent. Et puis ce qui fait que quand j'écris mon livre, je me marre. Quand je le relis, je me marre. Au bout de 50 fois, je me dis « Mec, ta blague, elle est pourrie ». Mais c'est pas grave, parce que quand les gens...
À la 50e fois, c'est moins drôle.
Voilà, c'est moins drôle. Mais bon, quand après, les lecteurs me disent « Ah ouais, je me suis marrée », ah là, je suis heureuse.
Une autre caractéristique de la fantaisie urbaine, c'est peut-être pas le cas pour toutes, mais on peut le remarquer la tendance, c'est que très généralement, ce sont des séries. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un seul tome, on n'écrit pas un one shot, c'est pas autoconclusif, ça se termine pas en une seule fois. Il y a un tome, deux tomes, trois tomes, une série de 13 pour Chloé, une série de 5 pour Marika, mais c'est fini. Vous avez promis que
c'est
c'était fini.
C'est fini aujourd'hui, le dernier du dernier, la boucle est bouclée.
Est-ce que c'est inclus dans le package? Est-ce que quand on écrit du surnaturel ou du supernaturel, je ne sais plus d'ailleurs quel est le bon mot, du super naturel. Le truc où il n'y a pas du tout de vampire. C'est une nouvelle tendance qu'on pourrait lancer. J'écris un truc super naturel. Baguette, vaisselle, tout ça. Bon, non, en étant un peu plus sérieuse, est-ce que la série, c'est un passage obligé?
Alors moi, je n'avais jamais lu du genre avant. Donc, j'ai fait une histoire en plusieurs tomes, parce que j'avais envie de pouvoir connaître mes personnages et puis développer une histoire où j'aime bien les rebondissements. Mais du coup, sur un tome, on peut faire des rebondissements, mais on peut s'en prendre des beaucoup plus gros avec on va dire, une bonne lame de fond qui ramène une bonne vague en pleine figure. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Et j'essaie de lire des choses que j'aime bien. Du coup, j'aime bien les séries qui sont étoffées, mais pas trop longues, dont on connaît la fin. Et c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai
I would agree. I think I love, as a reader, being able to watch characters grow. I love the inside jokes that characters tell between them. I'm a huge fan of things like Star Trek The Next Generation and Buffy because the character development is so good. And when somebody says a joke in the fourth season of episode or the fourth season that refers back to something in the first season, I adore that. So writing a series was for me a way to have those inside jokes and show that character development. But certainly in the United States, it's certainly more common nowadays, especially in urban fantasy, to have a series rather than just a one-off. I assume because people like that as well. It's like a television series, but in a book. And I think people enjoy that.
Eh bien, d'abord, en tant que lectrice, je dois dire que moi, j'apprécie beaucoup les séries parce qu'il y a moyen de faire évoluer les personnages et aussi, on peut faire des petits clins d'œil d'un épisode à l'autre. Moi, je suis vraiment super fan de Star Trek et de Buffy et j'adore quand on fait des petits clins d'œil dans la quatrième saison à quelque chose qui s'est passé dans la première saison, par exemple. Et donc, j'avais envie de travailler avec ça. Et aux États-Unis, je pense que le phénomène des séries est extrêmement développé et sans doute parce que les lecteurs réclament des séries et dans le secteur de la bitlit plus spécifiquement. Et donc comme c'est quelque chose de très couru et que on voit ça aussi à la télé, les séries ont énormément de popularité. Donc moi j'aimais bien la possibilité de faire ces clins d'œil d'un épisode à l'autre.
Donc je n'écris pas de séries. C'est un peu ça. C'est moins horrible qu'en en train de faire. Je les tue pas à la fin, mais c'est vrai que vous les reverrez plus. Mais je pars de très loin en fait. Je suis novelliste à la base. J'ai commencé avec des petits textes et plus je sens que la maîtrise du texte me vient, plus mes textes grossissent. Donc là, je maîtrise le one shot. Et je pense, si l'opportunité s'ouvre, je pense, oui, pourquoi pas une série. Mais du coup, je pense pas... Le diptyque, attends, soyons sages. Mais du coup, je pense pas du tout que la série soit liée... J'avoue que on voit beaucoup de séries, mais pour moi, une histoire, c'est une histoire. Alors, elle est plus ou moins longue, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de séries dans l'urban fantasy. Après, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, enfin, one shot, j'en ai marre de me taper des séries. » Et finalement, ils me reviennent voir après avoir fini le bouquin. Ils disent « Mais t'es sûr qu'il n'y en a pas un autre après ?» Il faut un peu savoir ce qu'il veut. Parce que... voilà, non mais...
Alice, une série en vue ou...
Ah oui, moi c'est...
C'est parti pour 12 tomes.
Absolument. Non, 3, ça sera déjà pas mal. Parce que comme Chloé, il faut que je retourne à l'hôtel travailler un peu. Donc voilà, mais oui, moi j'ai du moment où j'ai su lire, j'ai lu des littératures fantastiques, des littératures de l'imaginaire, de la fantasy. Du coup, j'ai pas vu de one shot avant l'âge adulte. Je savais pas ce que c'était. Moi, pour moi, un bouquin, ça venait par 3 ou ça venait pas. Du coup, quand j'ai vu que les grandes personnes lisaient des one-shots, c'était une découverte. Et du coup, je pense que je peux pas envisager ça. Je peux pas envisager qu'on puisse développer des personnages et qu'on puisse les abandonner en fait au bout d'un tome. Moi, j'ai besoin de passer du temps avec eux, aller acheter la baguette ensemble, faire des choses. Et plus on développe l'histoire et plus on a de chances de découvrir des choses, de se laisser surprendre et de... parce que typiquement sur mon texte, si j'avais pensé faire un one shot et si je m'étais arrêtée à la fin du premier en me disant bah voilà c'est la fin de l'histoire, clairement il y a un personnage que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer parce que il s'est invité dans l'histoire alors que je lui avais rien demandé. Il a pris le contrôle total du tome 2 alors que je ne lui avais toujours rien demandé. Et ce mec-là,
c'est qui où est-ce qu'on peut le rencontrer?
Bah, eh bien, à la fin du tome 1. À la fin du tome 1, y a son numéro de téléphone. Non mais voilà, donc j'aurais jamais eu la chance de rencontrer ce personnage-là, de développer tout un tas de choses. Donc oui, la série pour moi c'est vital, ouais.
Roxane, reverrons-nous Lou?
Ah bah on peut même déjà la revoir puisque les 4 tomes sont sortis en numérique. Et en fait, moi j'ai une grosse surprise parce que j'ai écrit ce tome 1 comme un one shot. Et quand je l'ai présenté à mon éditrice, elle m'a dit bon, on est d'accord, hein, c'est le début d'une série. Ah bon?
C'est une blague.
J'ai eu un moment à me dire, je vais dire oui. Oui.
Mais tu es mazo.
Exactement. Ça, on l'avait clairement établi depuis un moment déjà.
Et donc, autant le premier peut être lu tout seul, autant les 3 suivants, effectivement, renvoient vers une intrigue qui commence plus ou moins dans le tome 1, mais dans le tome 1, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, à la fin du tome 1, on peut se dire, ok, c'est terminé. À la fin du tome 2, on ne peut pas du tout se dire que c'est terminé. Il faut aller à la fin du tome 4 pour que ce soit vraiment fini.
C'est bien vendu, les 4 tomes. Vous ne comprendrez rien numériques. Tant que vous n'aurez pas fini le tome 4.
Voilà.
ça me paraît un peu George Martinien, mais bon. Est-ce que justement on n'est pas très influencé par notre vision? C'est Antoine Rouault qui disait ça ce matin, parce que ce matin j'ai eu un panel que masculin. Je n'aurai pas de panel mélangé, je crois. Est-ce que Antoine disait qu'on était très influencé par la vision série télé, justement, par la énième saison, par le fait qu'on suit des personnages très longtemps dans leur évolution de vie, qu'on les voit vieillir, qu'on vieillit avec eux, qu'on sait si Ross et Rachel finalement se marient ou pas. They were on a break, on est bien d'accord. Donc c'est équipe Rachel. Il y a quelqu'un de l'équipe Ross? Ça m'étonnerait. Ah, un garçon.
They were only kind of on a break.
Bon, ceux qui connaissent pas la blague de Friends, allez chercher sur Wikipédia, vous trouverez. Donc est-ce qu'on est influencé par cette façon d'appréhender les personnages pendant longtemps? Est-ce que la série télé a construit une façon de penser où on croit que le one shot n'existe pas comme Alice? Alice, la guerre des fleurs de Tad Williams, one shot. Emma Bull, la guerre pour les chaînes, one shot. Il y en a plein en fantasy des one shot.
Je vais vous avouer un truc.
Allons-y. Bon, ça restera entre nous.
Bonjour, je m'appelle Alice.
Bonjour Alice, auteur de fantasy.
Je suis auteur de fantasy urbaine et j'aime. Je suis un peu spéciale avec mes livres. J'aime qu'ils soient jolis, qu'ils soient assortis, qu'ils soient plusieurs sur l'étagère. Ils sont rangés par couleur, par ordre alphabétique. Bref, voilà. Bonjour, et ça va. Je le vis bien. J'essaye de me soigner un peu. Je pense qu'il y a d'autres hystériques des bouquins qui me comprendront. Donc du coup, voilà, oui, ça existe, les one-shots, et même le Seigneur des Anneaux, à la base, avait été écrit pour n'être publié qu'en un seul et a été saucissonné en trois par l'éditeur. Mais
c'est moins bien assorti dans la bibliothèque.
Mais ça rend moins bien. Ça rend moins bien. C'est plus sympa quand il peut y avoir plusieurs tomes les uns à côté des autres.
Donc, et l'influence des séries?
Et l'influence des séries, mais complètement, oui, oui, oui. Ben, j'ai grandi, élevé à Buffy, cette saison, voilà. On a le temps de et Buffy, c'est une héroïne avec qui on a grandi parce que on a grandi avec elle pendant 7 ans, qu'on a eu le temps d'apprendre à la connaître, d'apprendre à connaître ses amis. C'est pas dans les 12 premiers épisodes qu'on aurait pu faire ça. Et même les films. Je sais pas si tout le monde, enfin, si les autres de ma génération seront d'accord, mais enfin, un Terminator ou il y a une suite, même si ils s'étaient tiré une balle dans le pied en faisant le premier, parce que ils ont dit oui, on a tout détruit, il ne peut pas y avoir de deuxième Terminator, et puis 6 ans plus tard, ils se sont dit finalement, ça serait pas mal de refaire de la thune, mais c'était un bon film finalement, Terminator 2, et donc voilà, les choses viennent par quand c'est bon, ça vient à plusieurs.
On est
déjà.
Et on est d'une génération sequel, quoi. Ok. Oui, pour vous aussi.
Non, elle m'a juste donné le micro pour plus dire de bêtises, hein.
Ok. Alors, Marika, justement, l'influence des séries.
Alors, l'influence des séries énorme, mais il y a des tonnes de films qui sont géniaux et qui n'ont pas de suite. Et des films. Tous les films qui, moi, m'ont fait, n'ont pas de suite. Princess Bride, pas de suite. Les Goonies, pas de suite. Willow, pas de suite. Aidez-moi, il y a des tonnes de... Bon, d'accord, après, il y a Indiana Jones, il y a Les Retours vers le futur. Ok, mais il y a quand même du bon, il y a quand même du bon. Mais c'est vrai que tu peux... Mais c'est vrai qu'on peut comparer les one-shots et les séries, et c'est un plaisir complètement différent. Tu peux voir un film qui va t'en mettre plein les yeux, qui va être... Excuse-moi, je te fais du pied, on se rapproche. Qui va être absolument faramineux et qui sera juste un stand-alone et ce sera tout. Et après, on peut voir des séries ou des films en plusieurs volets. Bon, c'est souvent des adaptations, ça. C'est vrai que là, du coup, le rapport est vraiment différent parce que les personnages... On ne se contente pas juste de regarder ce qu'ils font et puis d'être impressionné ou touché. On rentre vraiment dans leur quotidien, on rentre dans leur vie, on rentre dans leur challenge personnel et dans leur... On les aide dans leur propre... Il y a des gens qui regardent Revenge ici?
Oui.
Moi. Ok.
Ben, récemment, oula, il s'est passé quelque chose, et il y a trois saisons, et il s'est passé un truc que, d'une certaine manière, on attend depuis un bon moment. J'avais presque les larmes aux yeux tellement j'avais l'impression que ça m'arrivait à moi, parce que je les ai suivis depuis tellement longtemps que même si des fois la série est meilleure qu'à d'autres moments,
et souvent voilà, elle est pire qu'à d'autres.
Mais fatalement, tu es tellement attaché que tu ressens les choses au plus profond de toi, et du coup, Et tu as ça aussi justement dans les séries de bouquins où moi j'ai pas de suite. J'ai plein de personnages qu'on n'apprend pas à connaître. J'ai genre un Barnet qui est un personnage que j'adore, qui est complètement décalé, on n'apprend pas à le connaître. Et puis du coup, c'est peut-être, si on le croise, c'est juste un excentrique. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas pourquoi il est absolument génial, quoi. Moi, c'est un de mes chouchous. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut faire quand justement on a du temps ou un toc. D'avoir plusieurs ouvrages à sortir.
Il n'y aura pas de spin-off, Barnet. Chloé, est-ce que vous, en tant que lectrice, vous avez en tant qu'auteur, vous avez un attachement comme ça aux personnages qui fait que vous avez envie de les suivre longtemps, de ne pas les quitter?
Oh, absolutely. I'm writing number 11 in the vampire books right now, and I know 13 is out there, and I know I will cry when it's done, because I love Merritt so much, and have gotten to know her so well. But there's a saying, I don't know if it's true in French as well, but in America we say you have to kill your darlings, which is you have to be willing to take out the ones you love.
La phrase favorite de George Martin.
C'est ça. Yeah, exactly. Pardon, with aplomb.
On va attendre que Jocelyne traduise.
Yeah. Red wedding. There's two words for you in the United States. But absolutely. And, you know, it's hard when there's characters you love, but sometimes you have to be willing to use their death to show something else in a book. But certainly it's a hard thing to do. And sometimes you bring them back to life anyways.
Oui, tout à fait. En fait, on s'attache complètement à ces personnages. Donc, comme je le disais, je suis en train d'écrire le 11e de la série qui en comptera 13. Et je sais que je vais pleurer à la fin parce que je vais être tellement triste de quitter mes personnages. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Merritt. Je l'adore. Et bon, il y a une expression, en fait, aux États-Unis qui est kill your darlings, qui veut dire tuer vos chéris. Et je pense qu'à un moment donné, il faut envisager de le faire parce que, en fait, on peut utiliser leur décès pour appréhender d'autres aspects de leur personnalité. Mais il arrive qu'on tue un personnage et qu'on finisse par le ramener à la vie parce qu'on ne peut pas se passer de lui aussi.
And all of those who've read the Chicagoland Vampires, like, I know what you're talking about.
Et tous ceux qui ont lu les Vampires de Chicago, vous savez exactement de quoi on me parle là.
Est-ce que c'est malin du coup de choisir des personnages principaux qui sont des personnages à pouvoir pour pouvoir les ramener à la vie quand on a. Enfin, en même temps, Vanessa, elle a déjà tué ces personnages, donc il n'y a plus de souci avec la vie, la mort, ils seront là de toute façon. Alors, est-ce que vous choisissez des personnages à pouvoir pour éventuellement qui soient plus forts que la mort? Même quand elle est décidée par l'auteur.
Moi non, quand ils sont morts. Hein. Okay. Plus, hein.
C'est pas la sadique, mais c'est définitif.
Ils ne reviennent plus, après ça c'est sûr. Mais c'est parce que ça ne fait pas partie de mon univers. Dans mon univers, on ne revient pas. Donc je réfléchis à deux fois avant de faire mourir quelqu'un, parce qu'effectivement, comme dit Chloé, quand il meurt, ben, ça fait bizarre. Hein. Elle dit qu'elle va pleurer à la fin du 13, moi je pleure à la fin de chaque tome.
Alice, le choix d'un personnage à pouvoir, c'est le moyen de le sortir des pires situations?
Ah, c'est sûr que c'est le moyen de rendre les explosions plus impressionnantes, en fait. On est tellement habitué à voir des choses, à avoir de la surenchère, en fait, qu'on ne peut plus se permettre de faire du basique. Je prends l'exemple de la série Viking. Je ne sais pas si vous avez vu, qui est une série que je n'ai pas vu par ailleurs, hein, mais que je, dont on m'a parlé fortement, qu'on m'a fortement conseillé. Et en fait, dans cette série-là, ils ont pris le parti de rester réaliste historiquement. Donc, quand il y a une invasion de vikings, bah, c'est 13 mecs sur un drakkar. 13 mecs sur une plage, c'est pas hyper impressionnant quand on est habitué à regarder des peplums avec 2000 mecs en train de courir. Mais enfin, oui, effectivement, la guerre de Troie, ils étaient pas 6500. Hein. C'était l'intégralité de la population européenne, 6500 à l'époque. Donc, du coup, ils étaient 13 à se battre sur la plage. Donc, mais on vit dans un monde de surenchère où plus
c'est
ça
ridicule,
va.
13 sur une plage.
C'est... Ah non, mais on est d'accord, c'est ridicule, 13 sur une plage. Et vous savez quoi? Quand on donne un coup de poing à quelqu'un, ça fait pas de bruit, en fait. Mais ça, quand on a...
Ne tentez pas ça chez vous.
Non, mais ça fait pas ch'tac, ch'tac, comme dans les films. C'est... Je vérifie.
J'ai appris des trucs sur ce panel, je suis déçue, déçue.
T'as vu? Alice, les bons tuyaux. Et du coup...
Ça tombe bien, je suis le capitaine d'Aubet. Enfin bon...
Enfin ouais, il y a un besoin de surenchère et donc effectivement plus on charge le personnage de pouvoir et plus on peut faire des explosions impressionnantes et du coup plus on peut se faire plaisir.
Moi j'ai un personnage de pouvoir, alors pas de spoiler, hein, rien ne peut la tuer, ce qui est aussi une partie du problème. Mais les autres, ils peuvent avoir tous les pouvoirs qu'ils veulent. S'ils meurent, ils meurent. Par contre, il y a beaucoup de faux semblants et d'illusions et de voilà quoi, comment dire.
Vous êtes un peu la reine de la fausse piste.
J'aime bien les fausses pistes, oui. Donc si vous lisez quelque chose, même si je vous le dis noir sur blanc, ne me faites pas forcément confiance.
Ne faites confiance à aucun auteur, de toute façon. Simple.
I didn't give them powers just so they could die, but I think the point about explosions that Alice made is really big, and that when you have people who don't have supernatural powers, the fights aren't that interesting. But if they have strength to withstand a big explosion, or at least walk away mostly unscathed from it, you can write about the explosion instead of just the fist fight. So it gives you more range as a writer because you could make the drama and the conflict that much bigger.
Donc oui, pour ce qui est de ce qu'on disait sur le panel, c'est vraiment la raison pour laquelle on donne des pouvoirs à nos personnages, parce que sans super pouvoir, sans pouvoir extraordinaire, les bagarres sont un petit peu moins passionnantes, moins dramatiques. Donc des bagarres avec des super pouvoirs, ça rend la chose beaucoup plus excitante. Et plus ils ont de pouvoir, donc plus les explosions sont considérables et plus ils peuvent mieux, ils peuvent s'en sortir. Donc ils peuvent s'en sortir sans avoir été touchés grâce à leur pouvoir.
Vanessa ?
Merci. En fait, pour moi, les super pouvoirs, c'est vrai que le côté bing bang boom, tout ça fait d'artifice. Ah ouais, non, si, moi je mets du bruit, moi. Je... Ouais, non, justement. Ouais, sauf quand le coup de poing est enflammé. Et quand face le gars est en pierre, du coup, tu vois, ça crée une explosion parce que la pierre chauffe et explose à l'impact. Mais bon, ça, c'est une réflexion de... Enfin, voilà. Donc, en fait, pour moi, les pouvoirs, hormis voilà, le super côté, on s'éclate, parce que bon, on lit aussi l'imaginaire pour s'éclater quand même. Hein. Faut bien. C'est le côté... qui dit grand pouvoir dit grande...
Responsabilité.
Merci. Et qui dit grande responsabilité dit bon ben là j'ai des choses à faire donc je vais me mettre dans la... Merci, c'est plus poli que ce que j'avais en tête. Et donc finalement les grands pouvoirs sont ce qui va emmener les personnages à se taper. Quand on disait tout à l'heure je suis sadique, je mets mes personnages dans la panade. Non, ils sont puissants les pauvres petits. Donc ils se mettent tout seuls dans la panade parce que avec la puissance ils héritent des responsabilités. Par contre ce qui les sauve... Et là, ça va être super flanflant, ça va faire lapin rose. C'est l'affection des leurs. En fait, à chaque fois, quelque part, ils s'en sortent lorsqu'ils arrivent. Alors, je parle pas forcément de l'amour d'un couple, hein, mais vraiment l'affection des leurs. Dans 5 pas sous terre, heureusement qu'elle a un frère, la minette qui est morte. Parce que sinon, elle s'en sortirait pas. Et finalement, c'est vraiment plus les relations humaines qui, et le fait qu'on va pouvoir, à un moment donné, faire confiance à quelqu'un, et que ce quelqu'un va nous rendre cette confiance et va avoir foi en nous, enfin en l'héroïne, qui fait qu'ils vont s'en sortir. Alors que les pouvoirs, c'est juste là pour te... Tu vois le trou là ? Zut ! Voilà.
Bon, eh bien, on va mettre fin à cette table ronde. J'espère que vous aurez compris que la fantaisie urbaine, écrite par des femmes, pas écrite par des femmes, avec des personnages féminins, masculins, peu importe. L'idée, c'est on s'amuse, on se divertit et on est là pour tous les lecteurs et pour toutes les lectrices. Lisez, ouais.